C'est un message que j'ai préparé concernant la compassion de Dieu. Parce que la compassion de Dieu, je me rends compte que dans ma propre vie, on peut perdre cette compassion-là envers les gens qui sont perdus. On peut perdre cette compassion-là envers les gens qui sont à l'extérieur de l'Église parce que nous, on s'habitue à voir les gens. Puis là, à un moment donné, il y a comme une routine qui arrive. Puis là, on oublie de les voir comme des gens qui sont perdus, qui n'ont pas Jésus-Christ, qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas le message de l'Évangile. Et nous sommes l'agent, et vous êtes les agents que Dieu choisit pour transmettre ce message-là. Mais ça prend de la compassion. Et Dieu a cette compassion-là. On peut dire compassion, on peut dire miséricorde. Et on va aller dans le premier verset, dans Exode 34, 6, parce que Dieu a révélé quelque chose à Moïse dans ce passage-là qui nous concerne, nous, de connaître Dieu dans sa compassion. Comment est-ce que Dieu lui-même est? Et moi, je ne vois pas les écrans. Je vais peut-être être obligé de m'approcher pour savoir si c'est rendu. Parce que quand je m'en ai rapproché, je vais vous voir de plus proche encore. Et c'est un passage où ce que Dieu s'est révélé à Moïse. Et dans ce passage-là, dans le passage dans 34.6, il dit « L'Éternel passa devant lui, c'est Moïse, et s'écria, je vais rapprocher ça parce que le son, vous ne l'aurez pas. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricorde, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants, des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Et ce que je veux souligner dans ça, c'est la miséricorde. Au début du passage, il nous parle « L'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricorde. » J'ai dit, je pense que je l'ai dit ici, mais je l'ai dit aussi à un autre endroit, la miséricorde, c'est comme une corde qui est tendue vers les gens qui sont dans le besoin, qui sont en péril, qui sont en train de se perdre. Et c'est la miséricorde que nous avons, mais cette miséricorde-là ne vient pas de nous, elle vient de la part de Dieu qui nous est donnée, qui nous la donne lorsqu'on est sauvé. Parce qu'on n'a pas cette compassion-là, on n'a pas cette miséricorde-là envers les gens qui sont perdus lorsqu'on n'est pas sauvé nous-mêmes. Et c'est seulement que Dieu qui peut donner cette compassion-là et cette miséricorde-là. Il nous a aussi dit qu'il est lent à la colère. Parce que si on regarde à notre propre vie, si Dieu n'aurait pas usé de patience envers nous, s'il n'aurait pas laissé le temps passer et essayé de nous attirer avec des témoignages, avec des gens qui nous ont parlé, avec des circonstances qui nous est arrivées, avec toutes sortes de choses qui se sont produites, on n'aurait pas venu au Seigneur. Mais la patience de Dieu a fait en sorte qu'il nous a attendus. Et nous, on doit attendre et s'attendre, être en attente de ce que les gens vont répondre à l'invitation que Dieu veut leur lancer. Là, c'est Moïse. Mais Moïse lui-même a été un certain temps loin de Dieu. Il a fait des choses, puis il a été 40 ans dans le désert. Et il avait besoin de la révélation de Dieu comme on a besoin de cette révélation de Dieu pour avoir cette compassion. Parce qu'avec les circonstances de la vie, avec ce qu'on peut voir à la télévision, dans nos nouvelles, on voit la guerre, on voit des choses qui se produisent, on voit des choses, et on devient comme insensible à ce qui se passe ailleurs. Dans les catastrophes, dans la misère, dans les guerres. Là, aujourd'hui, on est le 11 novembre, où ce que c'est l'armistice. Et où il y a des gens qui ont allé à la guerre, et nous, on regarde ça à la télévision, on n'a pas eu connaissance de ces choses-là tellement, on fait juste regarder ça. Puis on devient comme ça devient normal de voir ces choses-là, mais c'est pas normal. C'est de la guerre qu'il y a eu, c'est des choses atroces qui se sont produites, mais notre cœur devient comme endurci à certaines choses, et on a besoin que Dieu vienne travailler nos cœurs pour que la compassion soit là, que la miséricorde de Dieu soit là dans nos cœurs et qu'on puisse avoir cette compassion-là envers les gens et envers les situations. Quand on voit comme en Haïti où ce qui est arrivé des catastrophes dans le passé et qui en est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et nous, on regarde ça à la télévision, on n'est pas dedans. On peut dire, ah, ça arrive. Un peu comme il est arrivé à Gatineau, où ce qu'il y a eu une petite tournade. Et là, les gens se sont retrouvés à la rue, les gens se sont trouvés sans logement, se sont retrouvés à être dans un grand besoin. Et nous, quand on est à l'extérieur de ça, c'est que ça nous atteint pas, parce qu'on n'est pas les deux pieds dedans. Mais quand on est les deux pieds dans des situations difficiles, c'est là qu'on dit on a besoin que les gens aient de la compassion envers nous, qu'il y ait des gens qui répondent à ces besoins-là. Et l'Église est là pour ça. Et c'est pourquoi que Dieu est un être de compassion, de miséricorde. Mais nous sommes ses enfants, et les enfants doivent retenir des parents. Et on doit retenir de notre Père céleste, avoir ce besoin-là. Et lorsqu'on n'a pas cette compassion-là, on a besoin de crier à Dieu pour retrouver cette compassion-là, cette miséricorde-là, parce qu'on peut devenir insensible. Et dernièrement, il y a des personnes qui sont près de moi qui ont été malades, et ça nous atteint plus. On a plus connaissance de ce qu'est-ce que la souffrance de la maladie ou des difficultés quand on a des êtres proches, mais encore plus quand c'est nous qui sommes atteints de quelque chose. Tu sais, quand tu es en pleine santé, tu es dans la quarantaine, cinquantaine, et que la santé est bonne, tu sais, tu te rends pas tellement compte de cette réalité-là. Mais les personnes âgées qui vivent dans cette précocité-là, eux voient les gens qui ont de la compassion envers eux lorsqu'ils vont les visiter, lorsqu'ils vont leur parler, lorsqu'ils vont leur donner une parole ou ce qu'ils vont leur des fois, il y en a qui vont leur cuisiner des petits plats. Mais ça, c'est de la compassion, c'est de la miséricorde. Mais c'est pas seulement que des pensées, c'est des gestes. Et c'est là qu'on voit la différence. C'est les gens qui peuvent avoir une pensée, mais les gens qui font les gestes qui vont répondre à cette compassion-là. Et c'est là que c'est important. Et on va voir, la miséricorde et compassion, c'est deux choses qui sont reliées ensemble. Et c'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse ou dans le besoin. C'est ça. Et Dieu a cette compassion-là envers nous parce que nous sommes dans la détresse avant de le connaître, et parfois on est aussi dans la détresse après l'avoir connu parce que il y a des transformations qui doivent s'opérer. Mais c'est Dieu qui a placé cette pensée-là dans nos cœurs, qui amène cette pensée-là de compassion, de miséricorde, et d'avoir ce besoin-là de répondre à ce que le cœur du Père a, que nous devons transmettre aux gens qui nous entourent. Parce que il y a dans le monde, il y a des gens qui ont des bons cœurs, qui ont des cœurs qui aiment, qui veulent aider. Et c'est bien. Mais la compassion de Dieu va plus loin. Elle veut que les gens soient pas seulement aidés et secourus dans leurs besoins, il veut aussi les amener à la connaissance de Dieu pour qu'ils puissent le servir et qu'il ait la vie éternelle en plus. Parce qu'on peut répondre aux besoins des gens, les aider, on peut venir à leur secours, mais ça peut s'arrêter juste là. Mais Dieu veut leur donner plus, encore plus. Et vous êtes les personnes que Dieu veut utiliser pour cela, parce que c'est vous qui pouvez transmettre ce que le cœur de Dieu est dans votre vie, ce que vous avez reçu de la part de Dieu et que vous transmettez à quelqu'un d'autre. On va aller dans un autre passage qui est dans 1 Roi 3, 24. On va voir une situation de compassion et aussi d'endurcissement. Parce qu'il peut y avoir les deux. Dans une situation, dans 1 Roi 3, versets 24 et 26. Et c'est la... Pour ceux qui connaissent la Bible, c'est lorsque le roi a eu à trancher sur une situation, le roi Salomon. Il y avait une femme que son bébé était décédé, puis l'autre qui avait un enfant qui était encore vivant, et elle avait changé l'enfant pour celui d'un autre, et elle disait que c'était elle. Et Salomon devait trancher la situation. Et on va voir à travers ça, il dit, puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » Parce que là, il voulait trancher l'enfant en deux, parce que les deux disaient que c'était à eux l'enfant. Et Salomon, dans sa sagesse, parce qu'il savait pas qu'est-ce que y arriverait, Salomon a demandé une chose, mais la situation, mettez-vous dans les chaussures de la personne, Salomon demande une épée pour trancher l'enfant en deux. Mais Salomon avait une idée, il y avait une sagesse derrière ça. Et je recommence au verset 24. « Puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'un et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupe-le. » La mère, que c'était son enfant, ses entrailles se sont émues. Elle a dit, « Donne-lui, j'aime mieux qu'il vive, puis que c'est elle qui l'aille. » Mais ça a révélé une chose. L'autre, elle voulait qu'il soit coupé parce que elle n'avait pas les entrailles de miséricorde. Elle n'avait pas la compassion parce que ce n'était pas son enfant. Mais ça a révélé que son cœur n'était pas compatissant envers l'enfant. Salomon n'a pas fait trancher l'enfant, mais ça l'a révélé le vrai cœur de la personne. Dans la situation, ça l'a révélé celle qui avait de la compassion pour l'enfant. Et Dieu nous amène à avoir cette compassion-là, et il veut qu'on ait cette compassion-là. Et c'est là que, dans des situations, on peut voir à notre situation, est-ce que j'ai de la compassion? Parce que on peut avoir un cœur endurci avec les épreuves de la vie, avec les circonstances qui nous arrivent, avec les choses que l'on vit, puis qu'à un moment donné, on devient comme endurci dans les situations. Et notre cœur commence à être tellement dur qu'on n'a plus la compassion qu'on avait auparavant et que Dieu veut que l'on retrouve. Parce qu'on peut avoir perdu une chose, mais on doit la retrouver parce que Dieu veut qu'on le retrouve, ce cœur-là. Parce que le problème, c'est qu'avec le temps, il y a beaucoup de choses qui changent dans nos vies. Quand on vient au Seigneur, on est tout feu, tout flamme, on est joyeux, on a la joie, on voit pas les problèmes, on voit pas les situations, on voit que Dieu va tout arranger, on voit que Dieu va tout faire, que Dieu va être avec nous, que Dieu va faire les choses, qu'il va transformer les situations. Puis là, on est tout feu, tout flamme parce qu'on croit à un Dieu merveilleux qui fait des miracles. Mais après des années qu'on suit le Seigneur, c'est comme s'il a perdu de sa puissance. C'est pas que Dieu a perdu de sa puissance, c'est que nous, on ne le voit plus de la même façon. On a perdu nos yeux de voir Dieu comme étant un Dieu miraculeux, qui fait des choses miraculeuses, un Dieu qui fait des choses merveilleuses, mais pas avec notre imagination à nous, avec sa puissance à lui. Parce que Dieu est un Dieu puissant. Et c'est là que ça fait la différence. C'est là qu'on peut voir un Dieu de miséricorde à l'œuvre. Et nous, on a besoin de ça. Je vais prendre une autre situation. On n'ira pas le lire. Pour ceux qui prennent des notes, c'est dans 2 Samuel 24, 14. C'est lorsque David a péché contre Dieu, lorsqu'il a fait un recensement, puis que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il fasse, puis Dieu a dit, il va arriver un jugement. Il va arriver un jugement dans la ville. Et le prophète va voir David, puis il dit, il lui propose trois choses qui devraient arriver. La première, c'est 7 années de famine, 3 mois de fuite devant les ennemis, ou 3 jours de peste dans le pays, mais qui vient de la part de l'Éternel, dans le sens que Dieu est compatissant. Et David choisit, il dit, vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel. Parce qu'il savait que Dieu était un Dieu compatissant. Et vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel lorsque nous péchons ou ce que nous tombons dans des situations. Seigneur, on veut se remettre entre tes mains parce que on sait que tu es bon, que tu es miséricordieux, que tu es compatissant, que tu es lent à la colère, que tu es merveilleux. Mais Dieu n'oublie jamais non plus qu'il y a une justice. C'est pourquoi Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Parce que Dieu est juste et il est compatissant. Si ce ne serait pas de la miséricorde de Dieu, on serait personne sauvé. On lit souvent Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Mais c'est la compassion, la miséricorde de Dieu qui a parlé pour envoyer son Fils. La miséricorde de Dieu, on voit ça seulement comme étant l'amour, mais c'est le cœur de Dieu qui avait cette miséricorde pour la race humaine, pour venir et envoyer son Fils sur la terre. Pas envoyer son Fils comme dans un voyage de vacances. C'était un voyage périlleux à travers une race de pécheurs. Puis lui était le Fils de Dieu, puis ils ont voulu s'en débarrasser, puis ils s'en sont débarrassés parce qu'il est mort à la croix pour nous. Mais nous, on n'était pas encore là sur la terre, mais son amour, sa miséricorde, sa compassion était à l'œuvre dans l'action qu'il accomplissait en mourant sur la croix, en se livrant lui-même pour se rendre jusqu'à la croix, parce qu'il avait en vue quelque chose de grandiose. Le diable pensait avoir la victoire lorsque Jésus a été crucifié sur la croix. Mais Jésus avait la victoire. Mais le diable pensait. Mais Jésus avait la victoire. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont été sauvées suite à cet acte de miséricorde de la part de Dieu. Et nous sommes, nous, l'œuvre de cette miséricorde-là de Dieu. Cette part-là qui nous a été donnée. Parce que la miséricorde, la compassion, Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté, il est fidèle envers nous. Nous, on va manquer à la fidélité. On va manquer à des choses. Mais Dieu, dans son amour, il nous laisse du temps. Il nous attend. Il nous attend longtemps, parfois. Parce que il y a des gens qui ont abandonné, des fois, le Seigneur. Dieu continue à leur tendre la main. De continuer à désirer voir ces gens-là revenir. On a peut-être des gens dans nos familles qui ont venu il y a des années au Seigneur, qui ont accepté le Seigneur, puis qui ont délaissé l'Église, qui ont délaissé le Seigneur. Dieu n'a pas abandonné de les voir sauvés. Dieu n'a pas dit c'est fini pour lui ou pour elle. Sa miséricorde est là. Il désire encore qu'ils reviennent, ces gens-là. La compassion de Dieu est partout dans l'Ancien Testament, même dans ses jugements. La compassion de Dieu est partout dans l'Ancien Testament, elle est partout dans le Nouveau Testament aussi, transposée par Jésus lorsqu'il est venu. Jésus, on va aller dans la nature de Jésus. On va aller dans Luc 1,50. Il y a plusieurs versets là qui nous parlent de compassion. J'ai allé un peu dans l'Ancien Testament pour vous démontrer un peu la compassion de Dieu, comment est-ce qu'elle s'est manifestée dans l'Ancien Testament. On va voir comment est-ce qu'elle se manifeste avec Jésus. Puis on va voir qu'est-ce que nous, on a à faire pour avoir de cette compassion-là de la part de Dieu. Dans Luc 1,50, on va passer quelques versets. Ils sont... J'ai 50, 54, 72, 78, 77 et 78 qu'on va lire. Je vais les répéter tranquillement. Je vais regarder s'il est rendu là. Parce que dans 1,50, dans ces quatre passages-là, il nous parle de la miséricorde encore de Dieu. Et ça, c'était au tout début de ce que Jésus était envoyé sur la terre. Au verset 50, il nous est dit... Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, de génération en génération. Dans le temps que nous sommes, cette miséricorde-là de Dieu est encore à l'œuvre et elle agit encore. Elle se perpétue jusqu'à son retour, cette miséricorde de Dieu. Et toutes les gens qui sont appelés au ministère, et je parle pas nécessairement votre pasteur, parce que lui est appelé au ministère, Il y a des gens qui sont appelés au ministère. Il y a un ministère de miséricorde que les gens ont. Un ministère, les gens ont un don de miséricorde, ils ont une compassion envers les gens et ça se perpétue dans les cœurs. Parce que on doit avoir cette nature-là. C'est une nature qu'on doit avoir. On dit qu'on a la nature du péché avant de venir au Seigneur, mais on doit avoir la nature de Christ. Et la nature de Dieu, c'est d'avoir des entrailles de miséricorde, d'avoir une compassion pour les gens, d'avoir un désir de voir ces gens-là accepter Jésus. Et ça nous prend du temps dans la prière. Parce que quand on perd le feu, on doit rechercher à le retrouver pour avoir le feu. Si le feu s'éteint dans le poêle, le matin, il y avait de la misère à allumer le poêle en arrière. Puis là, il a ouvert la porte, il a fait des choses pour essayer de que ça commence à attiser. Mais spirituellement, on a besoin aussi de ratiser le feu dans nos cœurs pour la compassion des âmes perdues, la compassion des gens qui sont dans le besoin dans l'Église. Et c'est pas toujours question monétaire, financière. Parfois, c'est juste une tape dans le dos. Une bonne parole que la personne a besoin. Une tape dans le dos d'encouragement. Continue, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, la victoire. Parce qu'il y a des gens, on a chanté que Jésus brise les chaînes. Mais il y a des gens qui ont des chaînes encore, même après des années dans l'Église. Il faut que ces chaînes-là tombent. Quand il y a eu les chaînes, ce chant-là est revenu souvent de Jésus brise les chaînes. Et on a besoin que Jésus brise les chaînes. Si on a de l'amertume, il faut que ces chaînes-là soient brisées. Si on a de la rage dans notre cœur, on doit demander au Seigneur de briser ces chaînes-là. Et il y a plusieurs sortes de chaînes. Je m'élaborerai pas sur les genres de chaînes. C'est de trouver la celle qui nous est nuisible dans notre vie, qu'on doit briser. Et ça prend la grâce de Dieu pour le faire, ça prend la puissance de Dieu pour les briser. Et c'est en s'approchant de lui. Je reviens à mon exemple du poêle en arrière. Il s'est pas allumé tout seul. Il a fallu un petit effort. Il a fallu que la personne travaille un peu. Mais spirituellement, on a un peu de travail à faire en s'approchant de Dieu. La parole de Dieu nous dit, puis c'est Dieu qui le dit, « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » On a un effort à faire et Dieu va faire aussi un effort quand il va voir que nous, on a mis nos efforts dans le sens de s'approcher de lui, de mettre du temps dans la prière, de chercher sa face, de le retrouver parce que des fois, notre cœur s'est endurci. Seigneur, viens briser l'endurcissement de mon cœur. Viens changer les choses que j'ai laissées s'endurcir avec le temps. Un petit exemple un peu comme la pâte à modeler. Hein? Quand on la travaille, elle devient molle. Mais si on la laisse longtemps, elle durcit puis elle peut faire quasiment comme une roche. Mais c'est notre cœur des fois qui est comme ça. Au début de notre vie chrétienne, on était bien disposé à l'œuvre de Dieu. On était bien sensible et ému facilement dans la présence de Dieu. Puis bien des fois, après des années, on vient dans l'Église, on n'a plus d'émotion, on n'a plus de pleurs, on n'a plus de larmes. On devient comme Dieu. L'Esprit de Dieu, t'es-tu là, matin? L'Esprit de Dieu est là. Il dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Amen. Mais c'est pas parce que moi, je le ressens pas qu'il est pas là. C'est parce que moi, mon cœur est peut-être pas bien disposé pour recevoir de la présence de Dieu. Et c'est là qu'il faut revenir à la source. C'est là qu'il faut revenir comme un enfant. Les enfants, tu sais, les enfants, ça va se chicaner. Des fois, ça arrive. Hein? Mais deux minutes après, ils rejouent encore ensemble parce qu'ils sont contents de, ils ont oublié. Mais en tant qu'adulte, est-ce qu'on est comme des enfants? Devant les situations de la vie, ou ce qu'on est comme avec de l'amertume, des choses qui des fois ça fait des années qui sont produites, puis le diable nous ramène tout le temps ces pensées-là d'amertume, puis de ronger ces pensées-là au lieu de les oublier. Être comme un enfant, c'est d'oublier rapidement des choses. parce qu'on a besoin d'oublier les mauvaises, puis se regarder et regarder les bonnes que Dieu fait. Parce que c'est ça, Dieu fait des bonnes choses, mais non, quand on est trop concentré sur les mauvaises, on oublie ce que Dieu fait de bon. Puis on doit continuer à regarder. Je vais aller dans un autre passage, verset 24, Luc 1, pas 24, mais 54. Pas donner de la misère à notre ami qui est obligé de projeter. Luc 1, 54. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. On parle du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Dieu s'est souvenu de sa miséricorde. Il a secouru le peuple. Le peuple s'est endurci dans le péché. Dieu a été obligé de les amener parfois à la déportation à Babylone. Mais Daniel a vu qu'il y avait une prophétie. Il a commencé à prier pour le retour du peuple d'Israël à Jérusalem. Et il s'est souvenu que Dieu était miséricordieux. Il s'est souvenu de la grande bonté de Dieu. Et il a commencé à prier pour que le peuple retourne à Jérusalem. Et Dieu a exaucé. Et pourquoi que Dieu a fait ça? C'est parce que le peuple s'était endurci. Il était tombé dans le péché. Il était rendu rétrograde. Il était rendu à faire des choses abominables. Et la justice de Dieu devait agir. Il a laissé aller les choses pour la déportation. Mais Dieu n'avait pas oublié son alliance. Dieu n'avait pas oublié sa bonté. Il n'avait pas oublié sa miséricorde. Et là, Daniel s'est mis à prier. Les gens se sont mis à prier. Et là, les portes se sont ouvertes pour que les gens du peuple d'Israël retournent. Et quand que Jésus est venu, Dieu s'est souvenu de sa miséricorde et a envoyé son Fils au temps marqué. Parce que dans son amour, il voulait encore transmettre quelque chose au peuple d'Israël. Mais le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui a répondu. Les religieux, c'était ceux qui n'ont pas reconnu Jésus. Faut faire attention de pas être des religieux qui ne voient plus la main de Dieu agir. Faut demeurer avec un cœur d'enfant, un cœur qui est saint, mais qui voit Dieu dans son intervention, qui voit Dieu dans l'œuvre qu'il fait dans notre génération. Mais des fois, on dit, Dieu a agi dans le passé, on lit des livres de grands réveils dans le passé, on lit des livres de gens qui ont fait des choses grandiose pour que la parole de Dieu soit répandue, puis on oublie de voir que Dieu est en train d'agir dans notre génération. Faut voir, avoir les yeux et demander au Seigneur d'avoir les yeux de voir ce que Dieu fait dans notre génération. Il y a des gens qui sont ici, sont jeunes. Dieu les a sauvés. C'est l'Église de demain. C'est l'Église de demain parce que Dieu prépare l'avenir jusqu'à ce qu'il revienne. Dieu a toujours des plans. Dieu a toujours une idée de construire son Église. Il dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas arrêté, il continue. L'Église n'a pas été enlevée. Puis même après, quand on voit dans l'Apocalypse, même après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir des gens qui vont se convertir, il y a des gens qui vont accepter le Seigneur, mais ils vont avoir manqué ce bateau-là à cet instant-là, mais Dieu va leur faire grâce encore et miséricorde pour ceux qui vont avoir reconnu qu'ils ont manqué à l'enlèvement. Ça, c'est de l'amour. Hein? C'est de la grâce de Dieu, c'est de la miséricorde. On va aller au verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvint de sa sainte alliance. Dieu a, pour un temps, mis de côté le peuple d'Israël. Et la porte de la grâce s'est ouverte aux nations, à toutes les nations. Nous, on est dans cette nation-là où ce que on n'était pas du peuple d'Israël. Mais Dieu a permis qu'Israël rejette Jésus pour un temps pour que la porte soit ouverte pour nous. Puis nous, on est dans la grâce. On est les peuples païens qui parlaient dans l'Ancien Testament et que nous, aujourd'hui, on a accepté de vivre pour Jésus, de vivre pour lui. Et ça, c'est dans sa grâce qu'il nous fait qu'il nous donne la capacité de vivre pour lui. On n'est pas parfait. Je le reconnais. Je suis pas parfait, moi non plus. Mais on fait des efforts pour vivre jour après jour dans la grâce de Dieu, en vivant de mieux en mieux, en étant libéré des choses, libéré des chaînes qui nous tenaient liés dans le passé. Regardez ce que vous êtes aujourd'hui et regardez un peu en arrière ce que vous étiez quand vous êtes venu au Seigneur. Comment est-ce que Dieu vous a changé? Comment est-ce que Dieu a fait de vous une nouvelle créature? Qu'est-ce qui a été changé en vous? C'est que vous avez progressé dans la connaissance de Dieu et les choses que vous avez et qui ont été transformées dans votre vie, c'est parce que Dieu fait son œuvre. Tantôt, la madame a parlé qu'il y avait une personne qui avait commencé à se lever debout. C'est parce qu'il y a une œuvre qui s'est accomplie dans la prière. Mais Dieu n'a pas fait un tremblement de terre, il n'a pas fait un gros bouleversement. Vous avez prié, Dieu a exaucé petit à petit, tranquillement. Dieu fait un travail de long terme. Il agit sur le long terme, tellement long qu'il va nous garder jusque dans l'éternité. Ça, c'est du long terme. C'est assez long, hein, comme terme. Dieu fait une œuvre merveilleuse. Il y a des transformations qui s'opèrent dans nos vies aujourd'hui. Et un jour, on va être complètement transformé lorsqu'on va être dans sa présence. Et c'est là qu'il va y avoir des pleurs. Pas qu'on va broyer parce qu'on va avoir manqué quelque chose. On va broyer parce qu'on va tellement être content de la grâce que Dieu nous a fait, nous a accordé, nous a pardonné, nous a purifié, nous a changé, nous a donné une nouvelle vie, qu'on va être tellement content qu'on va l'embrouiller. Tellement content. Versets 77 et 78. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. On n'avait pas la lumière avant. Là, il parle du soleil levant, là, mais il n'est pas en train de nous parler du soleil qu'on a ici, là. Il est en train de nous parler du soleil que Jésus a fait briller dans nos cœurs. La lumière s'est levée. Et une petite portion de témoignage. La journée que j'ai été sauvé, que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'étais un travailleur forestier. Je bûchais dans le bois. Les mêmes épinettes que j'avais vues la journée d'avant, on dirait que c'était plus les mêmes épinettes. Il y avait une joie dans mon cœur que je voyais la nature, je voyais les choses de la nature de Dieu avec une lumière différente, des yeux différents, des choses et des pensées différentes. Là, je voyais la grandeur de Dieu et l'amour que Dieu avait pour moi puis la miséricorde qu'il avait pour moi. J'en revenais pas. J'étais « Merci Seigneur » puis j'avais pas d'autre mot de plus grand que « merci Seigneur » puis « merci Seigneur ». Je ne sais pas comment elle ait pu le dire de foi dans cette journée-là, et que je continue de le dire, merci Seigneur, parce qu'il fait des choses merveilleuses. Les gens autour n'ont pas vu. Dieu a fait ça ici, dans mon cœur, comme il le fait dans chacun de vos cœurs. C'est ça qui fait la différence. Nos yeux sont changés parce que notre cœur a été changé. Dieu change des cœurs. Aujourd'hui, on a des opérations pour que les gens, des fois, changent de cœur. Mais ça ne fait pas d'hier qu'il y a des transplantations de cœur. Dieu en fait depuis le commencement, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec tous les patriarches, avec tous les gens qui ont été sauvés. Dieu a fait des transplantations de cœur. Il a donné un cœur de chair, un cœur de miséricorde. Parce que c'est un cœur de miséricorde que Dieu donne à ses enfants. On va aller dans Luc 6, 35. C'est la nature que Dieu veut nous donner, d'avoir ces cœurs-là. Dans Luc 6, 35 à 37. Comme l'heure était déjà venue, déjà avancée, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes et des villages des alentours pour acheter de quoi manger. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnez-nous à manger. » Jésus, le passage que j'ai là, Jésus était dans une situation où ce qu'il devait, il y avait une foule. Puis là, les disciples autres voulaient que Jésus renvoie la foule. Mais Jésus voulait les nourrir. Et la nourriture qu'on a à donner aux gens, c'est cette nourriture-là spirituelle qu'on a à leur transmettre. Mais malheureusement, quand on n'est pas sauvé, on est fermé à ça. On est fermé à recevoir ce que les gens veulent nous donner. Et dans nos actions, dans la façon qu'on agit, dans la façon qu'on fait les choses, c'est l'ouverture qui se fait pour que les gens puissent recevoir. Parce que notre compassion, notre miséricorde envers les gens fait en sorte que les gens se disposent à recevoir de nous des choses. Comme Jésus a nourri cette foule-là, ça a ouvert une porte à la compassion de ce que les gens peuvent recevoir, cette compassion-là de Jésus, et recevoir de ce que Jésus voulait leur donner. Nos actions envers les gens vont faire en sorte que les gens vont avoir un cœur ouvert envers ce qu'on veut leur transmettre. Mais bien des fois, quand on veut leur transmettre directement la parole de Dieu, ils se ferment. Leur cœur est fermé au fait de recevoir. Mais par les bonnes actions, par les façons d'agir, les façons de se comporter, d'avoir des comportements qui sont aimables, des façons d'avoir de transmettre la miséricorde qu'on a reçue de la part de Dieu, on demande, Seigneur, permet qu'il y ait une ouverture, permet que je puisse témoigner à cette personne-là, permet que je puisse parler à cette personne-là. Des fois, on prie longtemps avant que la porte s'ouvre. Mais à un moment donné, il ouvre une ouverture. Il y a quelque chose qui nous permet de transmettre le message de la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu. Et c'est là que ça s'ouvre. C'est là que Dieu ouvre la porte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est que la prière, nos actions ont été là. Nos actions ont fait en sorte. Puis à un moment donné, il y a une ouverture qui s'est produite et c'est là que Dieu a pu nous permettre de parler, de transmettre la chose qui doit, la personne doit entendre, le message du salut, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Et on entend tellement de mauvaises nouvelles. Nous, on a une bonne nouvelle à transmettre aux gens. Tu sais, on dit « nouvelle ». Quand on écoute les nouvelles à la télévision, les bonnes nouvelles, il n'y en a pas. Mais nous, on a une bonne nouvelle à transmettre. Le message de l'Évangile. Le message que Jésus est ressuscité. Le message qu'il a quelque chose pour nos vies. Parce que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Je vais aller avec... On lira pas. Mais on va vous donner des passages pour que vous ayez des devoirs pour chez vous. On va voir des exemples de ce que Jésus a transmis dans des paraboles. Parce que Jésus avait cette pensée-là de transmettre des petites histoires qui permettaient aux gens de se faire une idée sur des choses. Et la première parabole, c'est la parabole du bon samaritain dans Luc 10, verset 30. On sait qu'il y avait un lévite, on sait qu'il y avait trois personnes, mais les deux pensaient outre. Les deux premiers ont passé outre à ce qu'une personne avait été tabassée, qui avait été laissée sur le bord du chemin, qui était là à moitié mort. Puis il y a deux personnes religieuses qui ont passé, puis là, ils ont regardé ça, puis ils ont dit, c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Ils ont passé drette. Le deuxième arrive, la même affaire, c'était des bons religieux, mais il n'y avait pas des entrailles de miséricorde. Il n'y avait pas un cœur compatissant, de compassion. Il arrive un Samaritain, ça c'était un demi-juif, quelqu'un qui n'était pas considéré par le peuple juif, quelqu'un que les gens levaient le nez dessus. Puis là, lui, il voit ça, il s'arrête, il lui donne les premiers soins, Il lui donne de venir au secours de cette personne-là. Il vient à rencontrer ses besoins. Il l'amène sur sa monture. Il l'amène à l'hôtelier. Il lui paye une chambre, puis il lui paye des soins. Puis il lui donne des bons soins. Et dans, on va lire juste un passage, je vais lire dans le verset, dans Luc 10. Luc 10, 30. Le sacrificateur, il y avait le Lévite, il y avait le bon Samaritain. Et la question était qu'il y avait quelqu'un, un des docteurs de la loi, qui avait posé une question à Jésus. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Puis Jésus lui amène cette histoire-là. Puis à la fin, au verset 36, il dit, « Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des migrants? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et fais de même. » Exerce la miséricorde envers les autres. Dieu, c'est ce qui nous appelle. C'était un docteur de la loi. Un homme qui était bien vu, qui était bien coté aux yeux des Juifs. Mais il manquait de miséricorde. Jésus lui a amené une petite histoire. Et dans les histoires que Jésus apporte, c'est on amène des réflexions au-delà de la pensée de l'histoire, de la parabole. Parce que là, on est obligé d'amener une réflexion, d'amener un raisonnement, de regarder la situation et de voir le contexte. Parce qu'on peut s'imaginer beaucoup de choses à travers ce contexte-là. Mais la pensée principale, c'est d'avoir de la miséricorde envers les autres. Tu sais, il y a même une loi sur la route qui dit, il appelle ça la loi du bon samaritain. S'il y a quelqu'un qui est sur le bord du chemin avec un accident, tu as une obligation d'arrêter pour venir au secours de la personne. Mais où qu'ils l'ont pris, cette loi du bon samaritain-là? Ils ne disent pas, mais elle vient de la Bible. Elle vient de l'Évangile. Elle vient de la bonne nouvelle que Jésus a proclamée. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne savent parfois, ne savent pas où ce que vient cette histoire-là, où la loi du bon samaritain. Mais c'est une loi que Jésus a enseignée. C'est quelque chose que Jésus, du pratico-pratique. Tu sais, on aime ça des choses qui sont utiles. Mais ça, c'est quelque chose qui est utile. Hein? On arrête souvent des gadgets, on s'aperçoit que c'est pas bon. Mais Jésus nous donne des choses pratico-pratiques qu'on peut pratiquer partout. Tout le temps. Deuxième parabole, c'est dans Luc 15, verset 11 à 32. Ça, c'est la parabole du fils perdu. La parabole du fils perdu, c'est le cœur compatissant du père envers son fils. Il y avait deux fils. Un, il a décidé qu'il voulait s'en aller, puis l'autre, lui, continuait de servir son père. Mais celui qui voulait s'en aller, il a demandé à son père de séparer son héritage. Il faut être assez audacieux. Hein, va voir ton père, puis là, toi, tu veux t'en aller, mais tu n'as pas d'argent. Tu demandes à ton père de te donner ton héritage avant qu'il meure. C'est assez audacieux. Puis là, en plus, il s'en va vivre dans la débauche. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur, qui ont reçu l'héritage de la vie éternelle. Ils ont reçu pour un temps, puis là, ils ont décidé de s'en aller dans le monde. Et là, on voit qu'il y a eu des situations où ce que cet enfant-là a vécu dans la misère, dans la difficulté. Puis là, il a commencé à raisonner, il est devenu intelligent, il a commencé à raisonner. Il a commencé à réaliser que dans la maison de son père, les serviteurs mangeaient des bonnes choses, puis il y avait des choses qui étaient bonnes. Il s'est dit que je vais retourner dans la maison de mon père, je vais retourner là. Le père n'a pas dit, je ne veux pas rien savoir de toi. Quand il l'a vu de loin, la compassion du père était là. On va lire le verset 20. Je vous encourage de les relire, ces paraboles-là. Il dit, au complet, les lire au complet. « Il se levant et allant vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta au cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Le père était tellement heureux, tellement enthousiaste de voir son fils revenir, qu'il voyait, il voulait le revêtir, il voulait lui mettre un anneau, lui donner des souliers, il voulait faire le festin. Et c'est un festin lorsque un âme se convertit dans le ciel. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui pensent qu'ils sont corrects. Mais on voit là la compassion. Le Père fut ému de compassion. Ça, c'est le cœur du Père pour les gens de l'extérieur, pour les gens que Dieu veut voir. Et pour vous qui êtes dans l'Église. Parce que même si on est dans l'Église, des fois on demande pardon au Seigneur et le cœur du Père est ouvert. Tu sais, le diable nous accuse. T'es un pas bon. T'as tombé, t'as péché, t'as volé, t'as menti. Le diable, c'est un accusateur. Aussitôt qu'il y a une petite affaire, il va nous accuser. Le Père ne nous accuse pas. Il nous appelle par notre nom, comme Paul le dit, quand il disait la chose. Dieu nous appelle par notre nom. Dieu nous appelle par notre nom. Puis il nous chérit comme ses enfants. Il sait qu'on a tombé. Mais c'est à nous de revenir et demander pardon dans ce que c'est qu'on a fait qui n'était pas correct. Et la troisième parabole, c'est l'homme riche et Lazare. C'est dans Luc 16, 19 à 31. Là, c'est un sujet contraire. Lui n'a pas usé de compassion. Dans Luc 16, verset 19, le 19, ça commence à 31. Mais le passage que je veux lire, c'est le verset 20. Il dit, « Un pauvre homme nommé Lazare était couché à la porte, couvert de sang et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. » Il mangeait les miettes de la table de l'homme riche, Lazare. La preuve que cet homme-là n'avait aucune compassion envers Lazare. Puis on voit plus loin que ça lui a été reproché. Il dit, toi, tu as eu tes bons moments quand tu étais sur terre, lui a eu sa misère, puis toi, tu n'es pas venu à son aide. J'y vais avec mes paroles, tu n'es pas venu à son aide. Puis là, tu demandes qu'il aille tremper le bout de son doigt dans l'eau pour t'humecter la langue. Hey, c'est pas grand-chose, ça. Essayez ça. Trempez votre doigt dans l'eau puis humectez-vous la langue. Il demandait ça. Mais il n'y avait pas possibilité que ça se produise. Mais on voit qu'il n'y avait pas eu de compassion envers Lazare. Malheur. Malheur à cette personne-là. Il n'y avait pas la compassion. On voit qu'il n'y avait pas le cœur comme le Père. Pas de compassion. L'endurcissement du cœur. Et nous, on doit avoir ce cœur-là du Père. Vraiment avoir un cœur comme le Père. Je vous conseille de lire et de relire ces paraboles-là et regarder le côté des compassions et regarder le côté où il n'y avait pas de compassion. Pour qu'on puisse avoir un cœur qui soit compatissant. Et en conclusion, je vais aller avec un passage qui nous dit, le mot compassion n'est pas mentionné dans ces passages-là, mais on voit qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit avec les gens de la fin des temps. C'est dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Il nous parle comment est-ce que les gens vont être avec un cœur dur. Puis nous, on a à veiller à ne pas avoir ce cœur dur-là, comme enfant de Dieu. Le passage dans 2 Timothée 3, verset 1, il dit, « Sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » Est-ce qu'on est dans les derniers temps? Depuis que Jésus est monté au ciel, jusqu'à son retour, on est dans les derniers temps. Il dit, « Car les hommes seront égoïstes. » Ça, c'est pas d'avoir de compassion, être égoïste. « Amis de l'argent, encore là, c'est pas d'avoir de compassion. Si tu aimes l'argent plus que toute autre chose, tu vas tout faire pour l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Tout ça, c'est des choses qui sont contraires à la miséricorde de Dieu. Et ça fait partie de notre génération. Dans le dernier temps, on voit des gens qui sont comme ça, qui sont amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, insensibles. Quand tu es insensible, tu n'as pas de compassion. Déloyal. Encore là, c'est un autre manque de compassion. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là, de ces gens-là. Nous, on doit avoir un cœur de compassion. Contraire à tout ce qui est mentionné là, ça c'est contraire à la compassion. Dieu nous appelle à avoir cette compassion, cette miséricorde-là. Et on doit développer cette pensée-là. En terminant ce message-là, on va se lever parce que je vais faire une rupture parce qu'ils vont avoir la communion. Je veux qu'on se lève, qu'on prenne quelques minutes de silence, on va prier, qu'on prenne quelques minutes et demander, Seigneur, aide-moi à voir mon cœur. Aide-moi à voir le cœur que j'ai. Et je veux pas vous culpabiliser pour dire, j'ai pas de compassion. Regardez ce que vous avez comme compassion et le but, c'est d'avoir plus encore de ce que Dieu veut nous donner comme compassion. Père éternel, dans ces moments où ce qu'on penche notre tête, Seigneur, on veut sonder nos cœurs, Père, parce que on a besoin de ton aide pour être capable de voir la réalité des choses, voir notre propre cœur. Pour avoir la compassion que tu as, Seigneur, envers les gens du dehors, envers les gens de l'Église, envers les gens qui sont dans le besoin. Et que tu viennes, Seigneur, à notre secours, individuellement et comme corps, Seigneur, qu'on puisse avoir un cœur selon le tien, avoir de la compassion, de la miséricorde comme tu as, Seigneur, envers nous. Seigneur, viens m'aider, moi, personnellement, qu'à chacun puisse dire, Seigneur, viens m'aider, moi, personnellement, à avoir ce cœur de compassion que toi, tu as, Seigneur, pour que ma vie soit changée encore par ton œuvre, ô Dieu, par ton Saint-Esprit qui agit dans ma vie. Et qu'au cours des jours qui vont venir, que je puisse recevoir de toi, Seigneur, la vision de voir où je manque de compassion et que cette compassion-là puisse se développer par ta puissance, ô Dieu, pour que je sois renouvelé dans mon cœur, d'avoir un cœur de chair, un cœur de compassion comme le tien. Père, c'est au nom de Jésus que nous te remercions de te révéler dans nos cœurs, de te manifester et de venir nous aider à voir ce cri auprès de toi. Seigneur, donne-moi un cœur de compassion. Seigneur, donne-moi un cœur de compassion. Seigneur, donne-moi un cœur de compassion. Et que chacun puisse dire, Seigneur, donne-moi un cœur de compassion. Oui, Seigneur, donne-moi un cœur de compassion. Parce que je veux un cœur comme le tien, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre dans les cœurs. Merci d'agir, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Pour la communion. Avant qu'on avance, je vais lire un passage dans 1 Corinthiens 11, 23, pour ceux qui... C'est un passage qu'on lit souvent. Je me tasse tout le temps du micro pour qu'on revienne. En 1 Corinthiens 11, 23, c'est pour nous rappeler comment est-ce que ça s'est déroulé, comment est-ce que ça se déroulait. Parce que Paul l'avait reçu du Seigneur. Et il veut qu'on le fasse, nous, comme lui le fait à ce moment-là. Il dit, « Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi... Je vais m'arrêter là. Je veux qu'on prenne un instant de regarder notre propre cœur. La prière que j'ai faite tantôt, c'en est une façon. Mais à travers la communion, c'en est une autre façon de discerner le corps de Christ. De reconnaître mon frère, de reconnaître ma sœur, de reconnaître les gens dans l'Église et dans les églises extérieures qui sont nos frères et nos sœurs, qu'un jour... On va tous être réunis ensemble de reconnaître ça, que c'est par l'œuvre de Jésus, c'est par sa grâce et sa miséricorde que nous sommes tous réunis et que rien ne fasse une barrière entre les individus.
Amen.
Amen.